Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, je suis à Musique Publique à Bruxelles et j'ai la chance d'interviewer Tristan Driessens. J'espère que je dis votre nom très bien. Tristan, bonjour.
Bonjour Mathilde, oui, Tristan Driessens, peut-être un petit accent différent sur le i de Driessens, et sinon tout est correct.
Mais je ne parle pas flamand couramment. Hein.
Tout à fait.
Donc j'ai demandé à Tristan de jouer tout de suite un morceau oud, et ensuite on parlera de cet instrument, de sa musique et de sa vie. Merci beaucoup. Superbe, merci beaucoup. Alors moi j'ai la chance d'être en direct hein, devant vous Tristan. Alors ici nous sommes à Bruxelles, en Belgique, c'est votre pays. Mais le oud ne me paraît pas être un instrument typiquement flamand ou belge.
Tout à fait, tu as tout à fait raison. Le oud que je pratique et qu'on vient d'entendre, c'est un instrument originaire de l'Orient dans un sens large. Plus spécifiquement de l'Iran, des pays arabes, de la Turquie. Et moi, le oud que j'ai ici en main, il vient de mon luthier à Istanbul. Donc voilà, c'est un instrument turc construit à Istanbul, le oud.
Superbe. Donc du coup, comment est-ce que vous en êtes arrivé au oud en venant de Belgique? C'est intéressant.
En fait, c'est une très longue histoire et je crois que c'est très lié au fait que j'ai passé une enfance un peu nomade. Et pour voilà, résumer une très longue histoire, ma mère, elle avait fait la décision quand j'avais 13 ans de littéralement tout quitter, de nous enlever de l'école et de commencer à faire un grand voyage en roulotte avec des chevaux. Du coup, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse en voyageant à travers l'Europe et surtout la France, c'est là où j'ai appris le français du coup, l'Espagne et le Portugal. Et je pense que le fait d'avoir choisi le oud finalement est fortement lié à cette enfance nomade que j'ai eue. Et c'est d'ailleurs en Espagne que j'ai découvert pour la première fois cet instrument par le biais de la musique séfarade, c'est un type de musique, et la musique arabo-andalouse où le oud a une place. Voilà.
Ah, magnifique. Donc un voyage en roulotte qui a duré combien de temps et où est-ce que vous êtes allé? Parce que j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de pays comme ça.
On n'a fait pas beaucoup de pays, mais c'était surtout un très long voyage. Donc c'est un voyage en gros... avec quelques interruptions, on a voyagé entre mes 13 ans et mes 20 ans. Donc j'ai passé 7 ans de ma vie à voyager. Parfois il y avait quand même une pause d'un an où on a été à l'école quelque part, mais disons que il y a eu des périodes de 3-4 ans où on était en permanence en voyage.
Seulement en Europe ?
En Europe, effectivement, seulement en Europe. Donc les pays où on a voyagé, c'était la Belgique évidemment, le pays de départ, on est de Belgique. Puis la Hollande, la France beaucoup, l'Espagne et le Portugal. C'était un peu les 5 pays où on a beaucoup voyagé. Un petit peu l'Allemagne, mais dans une moindre mesure.
Donc là, le morceau que vous avez joué, est-ce que c'est une composition? Est-ce que c'est... Enfin, qu'est-ce que c'était?
En fait, c'était tout simplement une petite improvisation. Voilà, dans la culture où le oud a sa place, l'improvisation est un aspect... incontournable. Donc dans la musique, il y a toujours des espaces, des moments où on improvise. Et ici, c'était... j'ai pris le oud et naturellement, je me suis mis à improviser un petit peu dans un certain mode. C'est une musique qui est basée sur des modes, des tonalités différentes. Et là, c'était une petite improvisation dans le style du oud, avec des ornementations typiques du oud. Donc voilà, c'était pas un morceau, mais un truc improvisé sur le moment même.
Alors ça m'intéresse parce que vous avez appris, donc découvert le oud en Espagne par le biais d'une musique, d'un style de musique. Est-ce que vous pouvez me parler d'un peu plus de ce style de musique et comment vous êtes spécialisé? Parce qu'aujourd'hui quand même, vous avez pris beaucoup de cours, vous avez voyagé pour apprendre ce style de musique. Je préfère pas en dire plus parce que moi je suis vraiment pas spécialisée là-dessus, ouais. Mais dites-moi.
Alors moi là-bas, je viens vraiment du trad. En tant que danseur et en tant que musicien aussi. D'ailleurs, quand j'ai découvert le oud, j'étais encore à fond vraiment dans le mouvement du trad et je faisais aussi des bals folk au oud. C'était ma toute première approche de cet instrument. C'était à travers le mouvement du trad où j'étais vraiment à la maison. Et d'ailleurs aussi, j'avais été partiellement influencé par des musiciens que j'avais croisés de fil en aiguille. Pour citer un exemple, un Jack Lavergne, par exemple, qui faisait de l'auvergnat avec le oud et qui allait même jusqu'à défendre la thèse comme quoi le oud serait peut-être déjà présent il y a des centaines d'années parce que apparemment les Arabes ont été jusqu'à Poitiers. Donc voilà, on y croit ou pas, mais en tout cas, au début, j'ai trouvé un accès très satisfaisant dans le trad à y introduire un instrument un peu venu d'ailleurs. Et après, je me suis dit que j'avais envie vraiment de faire le tour de cet instrument, pas comme un instrument un peu exotique qui a une sonorité intéressante et qu'on pourrait mélanger à des influences d'ici, comme notamment dans le trad, mais aussi j'avais envie vraiment d'étudier une tradition musicale qui est intimement liée au oud, historiquement. Et alors, en fait, je me suis finalement tourné vers la musique qu'on appelle la musique ottomane. Donc, c'est une musique originaire d'Istanbul, spécifiquement. Et en fait, curieusement, c'est pas un choix. C'est juste au fil des rencontres, je me suis trouvé à Istanbul et je me suis pas posé trop de questions. Je me suis dit, voilà, c'est ici que je suis pour l'instant et c'est cette musique-là que je vais étudier jusqu'à ce que j'ai vraiment une connaissance adéquate de cet instrument, de cette culture. Donc voilà, c'est vraiment les rencontres qui m'ont guidé vers Istanbul. C'est pas un choix, voilà, ça c'est la musique que j'aime, donc je vais aller là. Non, c'était, voilà, en cheminant, en cherchant, voilà, je me suis trouvé à Istanbul.
Je suis à Istanbul et je joue sa musique. Alors, est-ce que du coup, vous pourriez me jouer un morceau? Est-ce que vous pourriez nous jouer un morceau de cette musique que vous avez étudiée à Istanbul?
Oui, je pense à un morceau, par exemple, que tout le monde connaît. Ça s'appelle Tchétchenkeze, la fille de Tchétchénie. Voilà, je vais jouer ça.
Figeac 97.7.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence Figeac en Occitanie, là nous avons fait un petit voyage du coup jusqu'à Istanbul ou Constantinople, c'est ça? Et avec la fille de Tchétchénie, avec Tristan Driessens. Et quelle est cette histoire de... J'imagine qu'il doit y avoir une histoire, j'imagine qu'il doit y avoir des paroles.
En fait, non, il n'y a pas de paroles. C'est un air assez traditionnel, comme on peut le soupçonner. Alors qu'il y a aussi à Istanbul ce qu'on appelle la musique savante, la musique classique de la cour et tout ça. Ici, officiellement, c'est un air qui a été composé par un grand compositeur de musique turque qui a vécu à la fin du 19e siècle, qui est un peu comme le Mozart ou le Beethoven de la musique turque. Et il s'appelle Tanbur Cemil Bey. Donc officiellement, c'est une partition qui est composée par un compositeur bien particulier, mais officieusement, on trouve des variantes de cette mélodie en Bulgarie, en Grèce, dans les îles, en Anatolie, au-delà de Istanbul et tout. Donc voilà, c'est un air populaire qui fait partie finalement aussi du répertoire, ce qu'on appelle classique. Donc, et ça montre que dans cette tradition-là, dans la musique turque ou même dans la musique arabe en général, il y a toujours un rapport très particulier entre la tradition et la musique plus construite. Je ne sais pas si c'est pareil chez nous. En tout cas, là, c'est le cas.
C'est très intéressant parce que vous aviez dit que ce morceau était très connu. Mais moi, par exemple, je ne le connaissais pas. Alors, je ne sais pas si nos auditrices et auditeurs connaissent. N'hésitez pas à faire des retours. Et du coup, c'est plus qu'en Turquie qu'il est connu.
Oui, en fait, c'est ça. Il faut savoir, un aspect que j'aime beaucoup, c'est que la musique orientale, et on parle vraiment dans un sens très large, est une musique majoritairement transmise oralement. Donc, il n'y a pas de partition, il n'y a pas de conservatoire. Aujourd'hui, il y en a, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment une musique qui est encore transmise depuis des siècles de bouche à oreille. Et alors, on a vraiment ce qu'on appelle une sorte de mémoire collective. Il y a beaucoup de gens, tout le monde connaît un certain répertoire sans pour autant savoir exactement d'où ça vient. Et cet air que j'ai joué brièvement tout à l'heure existe un peu dans un territoire très large, au-delà des frontières. On trouve des variantes, donc comme j'ai déjà dit, en Grèce, en Bulgarie, dans d'autres pays des Balkans. Donc personne ne sait exactement d'où ça vient. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah mais non, c'est turc, oh non, c'est grec, c'est roumain, c'est hongrois ». Donc voilà, c'est typique en fait. Donc les mémoires collectives qui voyagent, la musique voyage et on ne sait pas trop quelle est l'origine.
C'est génial parce que dans la musique traditionnelle française et certainement d'autres musiques traditionnelles, on a exactement la même chose de ces morceaux qui voyagent et puis qui sont traduits de bouche à oreille et puis on ne sait plus vraiment quel est où est l'œuf, où est la poule en fait. Et alors moi j'ai la chance, chers auditeurs et auditrices, de voir Tristan jouer sur le oud. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu cet instrument pour donner une espèce un peu de visualisation à la radio.
Ouais, c'est toujours difficile. C'est comme si on demande d'écrire un morceau de musique alors que c'est tellement mieux de l'entendre. Mais donc voilà, j'ai ici dans les mains donc un oud. On peut dire que le oud a une caisse bombée qu'on appelle un peu piriforme. C'est comme si c'est une poire coupée en deux. Une table de résonance évidemment en bois, en IPCA, une touche, et ça c'est important aussi à dire, une touche non frettée, c'est-à-dire que c'est un instrument qui n'est pas comme la guitare, c'est un instrument qui ne sert pas vraiment à accompagner harmoniquement une musique, mais un instrument majoritairement mélodique, donc sans frette, on doit trouver les notes sur ce manche.
Et alors, comme
un violon, un violoncelle. Et autre particularité, contrairement aux luths, donc la variante du oud occidental, qui est là, dans des pays comme la France ou l'Italie ou en Espagne depuis le Moyen-Âge, c'est un instrument, le oud, qui est joué avec un plectre, donc pas avec les doigts. Et voilà, un bel instrument avec beaucoup d'ornementation. Il y a des rosaces qui sont bien ornementées, et puis un instrument assez esthétique à voir. Avec des éclisses ici en plusieurs bois, plusieurs essences, bois de rose notamment, et un autre bois qui est du if, voilà, en gros.
Mais c'est vrai que c'est un bel instrument, ce qu'on peut en voir dans des musées, par exemple le musée de la musique à Paris ou à Bruxelles d'ailleurs, et avec des rosaces vraiment complètement incroyables. C'est quand même un travail, j'imagine un travail d'artiste que de faire un oud, bon, comme tout instrument de musique, mais c'est là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même la possibilité d'être vraiment ornementés. Est-ce que c'est, je me demande, est-ce que c'est une tradition en Turquie ou de faire des instruments qui ont beaucoup de finesse artistique?
Pas plus en Turquie que dans un autre pays. Par exemple, les luths français ils peuvent parfois être très très joliment ornementés aussi. Donc, je dirais qu'on voit un peu dans les rosaces certains éléments qu'on pourrait peut-être retrouver dans l'architecture musulmane, mais j'en sais pas plus. J'ai l'impression que c'est pas plus que dans d'autres pays, mais je peux me tromper évidemment.
Voilà.
Alors, je voudrais revenir auprès de vos sensei, vos maîtres, parce que juste avant l'émission de musique, vous avez eu justement l'appel de l'un de vos maîtres à Istanbul. Comment ça se passe cette transmission en Turquie? Comment ça se passe le fait qu'il y ait des maîtres en musique? Comment? Je suppose que ça doit être un peu différent de chez nous.
Ben chez nous c'est un peu différent à partir du moment où on rentre dans un dans un cadre institutionnalisé comme un conservatoire supérieur. Alors là, c'est évidemment rien à voir, tout à fait différent. Mais donc la notion du maître en Turquie, c'est une notion qui vit dans n'importe quel autre pays de l'Orient. Mais j'ai l'impression, en venant du trad, que même dans notre culture, dans la musique traditionnelle, il y a aussi des gens qui ont été particulièrement accomplis dans la maîtrise d'un instrument ou d'un répertoire, et qu'on peut appeler nous aussi des maîtres. Il y a des musiciens qui maîtrisent peut-être ou qui sont représentants de la tradition, par exemple auvergnate, qu'on appelle aussi des maîtres. Donc je pense pas que c'est une notion vraiment liée à une culture, mais peut-être une notion liée à une forme musicale qui vit vraiment et qui est un peu, à mon sens, en dehors des conservatoires, en dehors de ce qui est institutionnalisé. Donc vraiment dans une tradition qui vit, je crois que une tradition saine respecte des personnes et qui maîtrisent, qui sont porteurs de tradition et qu'on les appelle volontiers des maîtres. Mais c'est vrai que la notion du maître à Istanbul, par exemple, ou en Turquie en général, dans les pays arabes, l'Inde aussi, la Perse, c'est j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus encore cette réalité où on rentre en contact avec un maître qui accepte de partager son savoir, de transmettre son savoir, et c'est souvent un rapport, une relation pour la vie. Dans mon cas, par exemple, je connais mon maître, donc ça veut dire la personne qui m'a vraiment formé en premier lieu, Oud. Je le connais maintenant depuis à peu près 15 ans, et j'ai toujours soigné très méticuleusement cette relation. C'est une relation qui s'élève loin au-delà de la simple transmission musicale. C'est vraiment aussi dans la vie, c'est un peu comme un père, on parle de plein de choses, c'est vraiment une relation qui se limite pas à la simple transmission musicale. D'ailleurs, parfois, il m'est arrivé de passer beaucoup de temps avec lui et qu'on joue pas vraiment, pas forcément, ou qu'il est pas vraiment en train de donner cours. On s'adresse ensemble à la littérature, on voit des gens, des amis à lui, on mange, on parle, on fait des voyages ensemble, donc c'est vraiment plus une sorte de rapport très privilégié entre un maître qui représente ou détient un certain savoir et un élève, comme dans ce cas-ci moi-même, qui apprend une musique peu à peu. Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse à ta question. Mais en tout cas.
Si, c'est un maître aussi spirituel. C'est pas musical, c'est spirituel aussi.
Oui, un maître, un père, un conseiller. Donc ça peut effectivement aussi avoir une dimension spirituelle, ouais, c'est vrai. Ouais.
Ce que je me demandais, si cette notion de maître, on en avait parlé hors lanterne, qu'il y avait un peu, quand on devient maître de musique, on est traité comme un roi, on est presque, enfin vraiment quelque chose d'insensé. Est-ce qu'il y a un respect spécifique à donner? Est-ce que ces gens-là sont quand même assez accessibles? Parce que des fois, c'est un peu compliqué. Et est-ce qu'il y a un respect particulier à donner? Est-ce qu'il y a, comment s'articule cette relation autour de la musique? Et puis finalement, spirituel. On peut pas détacher les deux.
Bah, je trouve que c'est une très bonne question. J'ai l'impression que une relation de maître et élève qui est saine, c'est une relation où il y a vraiment un respect mutuel. Donc, dans le cas de ma relation avec Nejati Çelik, hein, qui est donc mon maître, je peux dire que, par exemple, en sa présence, je suis très à l'aise et je peux m'exprimer très bien musicalement. Je peux jouer un morceau, même si je maîtrise pas encore parfaitement un certain morceau, par exemple, je peux l'apprendre en sa présence et je me sens extrêmement à l'aise, ce qui me fait comprendre qu'il y a vraiment un respect mutuel. Donc ça va dans les deux sens. C'est pas une sorte de relation inconditionnelle où l'élève il doit obéir à tout prix. Non, il y a beaucoup de liberté en fait. Il y a beaucoup de liberté d'expression. Il y a, en gros, c'est ça. Ouais.
Eh bien, moi, je voudrais que vous nous jouiez encore du oud, parce que c'est quand même pas un instrument que j'entends tous les jours. Est-ce que vous auriez un morceau long à nous faire écouter sur les ondes de Radio Présence Occitanie?
Alors, ce morceau s'appelle Isfahan Sassema ici. Donc, ça, voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais me limiter à dire que c'est un morceau que j'ai composé dans le style, comme un exercice de style, dans le style de la musique savante ottomane. Donc c'est voilà un style de musique bien particulier que j'ai étudié pendant plusieurs années avec donc ce maître que j'ai mentionné, Nejat Ecelik. Et alors à un moment donné, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à m'encourager à écrire une musique dans une forme vraiment spécifique de la musique classique ottomane. Et donc là, on rentre vraiment dans le champ de ce qu'on appelle donc la musique classique. C'est un peu plus difficile d'accès, un peu plus compliqué. Il y a des rythmes cycliques qu'on reconnaît pas tout de suite. Par exemple, ici, dans ce morceau-ci, je vais jouer en 18. Donc il y a 10 temps dans le cycle rythmique. Et donc voilà, je peux vous apprendre le rythme avant de jouer.
Ah, je veux bien. Oui, allez, oui. Nous voulons.
C'est 10 temps et c'est subdivisé comme ça. Donc c'est doum. Tech, doum, doum, tech. Ça fait 10, donc je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doum et tech et doum, doum, tech. Voilà, on est parti.
Alors, chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, j'espère que depuis votre voiture, votre chambre, si vous êtes en train de courir, si vous êtes en train de faire la cuisine, j'espère que vous avez compris le rythme d'Itan et que vous l'aurez étudié. À vous, Tristan.
Thank you.
Avec un final sur cette superbe harmonique, ici au théâtre Molière de Bruxelles. Merci beaucoup Tristan, c'était vraiment magnifique. Je vous propose de revenir la semaine prochaine pour parler un peu plus de cette musique ottomane savante et traditionnelle. Je pense que ça intéressera nos auditrices et nos auditeurs, êtes-vous d'accord ?
Oui, j'espère en tout cas. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir tout le monde, au revoir.